Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Hugo Micro, papa d'une famille française installée à New York depuis un peu moins de 10 ans et qui nous explique son expérience, déjà de papa, mais également d'employé et aussi de chef d'entreprise. Entreprise si inspirante qui propose de placer des minorités, des femmes notamment, dans des entreprises. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Hugues !
Bonjour Mathieu.
Bah ça va, merci. Merci de vouloir prendre un peu de temps pour témoigner sur le podcast. J'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
D'accord, bon, écoute, je m'appelle Hugo, Hugues Roux, alors je dis Hugo en anglais, c'est plus facile à prononcer pour les Américains. Je suis passé par Hugh et maintenant c'est Hugo, voilà pour la petite histoire. J'habite à Brooklyn, New York, j'y suis depuis 5 ans, j'avais, ou maintenant 6 même. J'ai habité avant ça dans l'Upper West à New York pendant 2-3 ans, donc ça fait bientôt 10 ans que je suis ici. Et dans la famille, on a Julie, ma femme, que j'ai suivie ici aux États-Unis. Et puis, nous avons Raphaël, petite 5 ans, et un petit nouveau qui va arriver soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Oh. Je ne peux pas dire le nom prénom, je vais me faire, avoir.
Mais tu nous feras.
Ça va mal se passer.
On fera un prochain épisode pour faire la suite. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a poussé à venir t'installer aux États-Unis?
Ben oui, bien sûr. Alors, pour venir aux États-Unis, ça a été simple. Un jour, il y a maintenant peut-être plus de 10 ans, ma femme, Julie, on n'était pas encore mariés d'ailleurs, me dit « Ah, écoute, je voulais te dire, j'ai postulé à Columbia University pour être film producer et je voulais juste te prévenir parce que si jamais on doit partir, si jamais j'étais accepté, faire te le dire. » Et je lui dis « Ah non, aucun problème, je te suis, si t'es accepté, c'est la chance de ta vie, tu vas pouvoir faire quelque chose de super sympa là-bas, moi j'ai envie d'aller m'expatrier de toute manière. » Il faut savoir que j'ai habité à l'étranger pas mal de fois, en Jordanie, à Madagascar, à Djibouti quand j'étais vraiment enfant et j'avais qu'une idée, c'était de repartir. Donc c'était une super opportunité pour moi aussi. Puis je lui dis ça, finalement, elle a été acceptée à Columbia University, c'était la grande surprise pour elle, et puis moi j'étais super content, et là il a fallu faire ce que j'avais dit, et il a fallu la rejoindre aux États-Unis, donc j'ai trouvé un emploi d'abord dans une entreprise américaine à Paris, et ensuite j'ai pu la suivre après quasiment un an.
Ah, oh, trop bien.
Un an quand même, hein, à distance, alors qu'on venait de se marier d'ailleurs, elle est partie elle, aux États-Unis le jour d'après notre mariage, juste après un ouragan ici, donc c'était assez flou-clos.
Oh la vache. Mais alors en étant mariée, parce qu'elle est partie sous un visa étudiant, ça doit être ça, non?
Elle était partie sous un visa étudiant, ouais.
Ouais, donc tu peux pas suivre quand... Bon. Bah alors donc du coup, j'imagine que vous avez fait un an de... La première année de mariage a été un peu à distance.
Complètement à distance même, donc c'était vraiment inattendu pour nous, on ne s'est pas du tout mariés pour être plus facilement ensemble aux États-Unis, donc ça nous a par contre énormément servi quand même par la suite d'être mariés. Je l'ai, au début, hein, je faisais des allers-retours une fois par mois entre Paris et New York. Finalement, c'était pas tenable. Et puis, j'ai finalement réussi à trouver cette société qui a bien voulu m'embaucher à Paris. Donc, c'était vraiment une bonne manière pour moi de mettre les pieds aux États-Unis, même depuis la France, en travaillant avec un boss qui était là-bas, quoi.
Trop bien. Mais alors, du coup, en quelle année t'as atterri à New York?
Alors, tout ça, c'était en 2011. Donc, j'ai dû venir ici en octobre 2012.
Ouais, ça va faire bientôt 10 ans, quoi.
Voilà.
Alors, à quel moment vous parlez de potentiellement élargir la famille?
On parle d'élargir la famille quand on se sent un peu mieux dans nos baskets ici à New York, quand on sait ce qui va se passer pour nous, et puis que Julie a trouvé un emploi après son départ de Columbia University. Un emploi, enfin, rien n'est très très stable ici aux États-Unis, mais pas de contrat, comme d'habitude, à l'américaine. Mais enfin, ça se passait plutôt bien, et c'est un milieu, elle travaille dans le film, où tu as beaucoup besoin d'avoir des relations à droite à gauche, très très localisé comme marché d'emploi, et du coup, ça se passait très bien pour elle, beaucoup de monde commençait à la connaître ici. Le fait d'avoir fait son école a pas mal ouvert de portes aussi au début, et du coup, on le sentait bien. Moi, j'étais à ce moment-là employé d'une société de software, donc il y avait une certaine stabilité de ce côté-là, et puis on s'est dit que c'était le bon.
Mais alors, Upper West Side ou Brooklyn?
Alors, on était juste arrivé à Brooklyn à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on allait emménager d'ici, ouais.
Ouais. Alors, comment elle te fait son annonce?
Comment elle me fait son annonce? Bah écoute, plutôt simplement, elle a juste venu me dire avec un grand sourire quelque chose, donc j'ai compris. Non, c'était en fait, c'était plutôt pas une surprise, mais un sacré choc quand même.
Ouais.
Ça a été, en fait, ça a été relativement dur pour moi de m'impliquer en tant que père avant la naissance. Je m'attendais à être beaucoup plus impliqué. Puis comme j'avais plein de projets en tête en parallèle de création de société, j'étais encore employé, mais en second emploi, si tu veux, je travaillais quasiment un autre plein temps sur la création d'une société. Donc il a fallu que je m'adapte. Et je voulais vraiment d'un enfant, évidemment, mais je m'y consacrais pas assez à ce moment-là. Donc.
Tu l'as pas suivi alors pour faire les échos et aller voir un peu quelle tête allait avoir ton petit garçon?
Ah si si si, je suis allé. Je suis pas allé tout le temps, malheureusement, entre les calls que j'avais besoin de faire avec mon emploi de tous les jours et puis la volonté d'aller avec elle. C'était assez difficile de combiner les deux. J'y suis quand même allé, hein, mais j'aurais pu faire mieux. Ouais. C'était toujours
Ouais.
très très plaisant de voir le petit évoluer dans le ventre. Ça a été un moyen de me rapprocher, hein, de l'idée d'être père, évidemment, mais c'est marrant, c'est arrivé beaucoup plus tard, en fait, après la naissance, hein, je pourrais te raconter ça.
Ouais, enfin, je pense que pour un garçon, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre l'impact que ça a avoir sur ta vie, étant donné que ça n'impacte pas ton corps. Tu le vois à l'écran,
Complètement.
mais tu le ressens pas, quoi.
Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est sûr. Le fait de le voir, quand même, hein, de voir. Le corps de ma femme qui a beaucoup changé, évidemment, le fait de voir aussi les mouvements du bébé sur le ventre, c'était assez impressionnant.
Ouais.
On avait essayé deux, trois techniques, des haptiques, hein, je crois, à suivre les mouvements du bébé sur le ventre et faire en sorte qu'il puisse participer, un peu une sorte de discussion, de gestes comme ça. C'était super sympa, ça m'a fait, effectivement, ça m'a fait me rapprocher, mais je pense que c'était assez intellectuel et c'était pas encore complètement ancré dans le cœur comme ça peut l'être après la naissance. Moi, c'était à partir du moment où j'ai vu les premiers sourires que les choses se sont passées. Donc ça a vraiment évolué en 1 mois, 2 mois, et puis après ça a plus arrêté d'augmenter. C'est pas que je pense que j'aurais été dévasté s'il y avait eu le moins de problèmes, mais de manière positive, j'avais pas un élan tu vois, d'empathie ou d'amour immédiat quand j'étais avec lui à l'origine. Et ça s'est développé sur le temps. Alors j'avais beaucoup de peine à en parler au début. Et je me suis mis à en parler autour de moi et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'hommes qui étaient dans cette situation. Et puis des femmes aussi, des amis qui venaient me rendre visite à New York, qui me racontaient ça et qui partageaient ça. Donc je me suis dit que déjà, un, je n'étais pas le seul, je n'étais pas un psychopathe. Et que deux, ça a évolué vraiment en fait assez rapidement avec le temps. Et là, j'attends un deuxième enfant. Ce n'est pas du tout la même chose, hein, ça a beaucoup changé. Je me sens beaucoup
Ouais,
plus proche. Ah ouais.
tu penses même pendant pendant sa deuxième grossesse?
Ouais, pendant la deuxième grossesse, là, bah, écoute, j'avais déjà l'expérience d'être un père tous les jours, et puis je savais beaucoup mieux ce qui allait se passer, ce qui allait venir. J'étais fils unique, donc peut-être que je connaissais pas énormément les enfants. Elle aussi, d'ailleurs, fille unique, et on a découvert tout ça ensemble. Ça s'est fait avec le temps, mais très rapidement après la naissance, tu vois, un mois ou deux. Je partage ça parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres pères qui sont dans cette situation, et comme on est en plus à plus ou moins tous, je pense, ici, dans ton audience, à l'étranger. Le côté de ne pas être proche de la famille fait que tu parles pas, tu vois, énormément avec les gens, ou c'est
Ouais.
difficile de te confier à distance avec Skype ou autre. Donc voilà, tu te retrouves peut-être un peu seul, et puis tu te poses des questions sur toi-même.
Est-ce que tu peux me dire alors comment s'est passé l'accouchement?
Alors l'accouchement, très bien passé. Alors qu'est-ce que tu veux comme détail? Parce que je sais pas jusqu'où je peux aller là.
Pareil, on n'a pas toute la journée, mais non, mais par exemple, est-ce que ça a démarré avec des contractions? Est-ce que ça a été calme? Est-ce que ça a été un peu le stress? Comment ça s'est passé pour vous?
Ça a été induit, c'est comme ça qu'ils disent ici, induced. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, tu vois.
Ah,
Déclenché.
oui, ça a été déclenché,
Déclenché.
d'accord.
Donc pas de stress, pas particulièrement de stress, en tout cas pour moi. Je pense que pour ma femme c'était un peu différent. Du coup
Ça
on a
doit peser
attendu
un
assez
peu sur la
longtemps.
fin.
Ouais, elle n'en pouvait plus. C'est dur, hein. Les fins de grossesse, je crois que c'est quand même assez compliqué. On a envie que
Ouais.
le bébé soit là. Et donc on est juste allé à l'hôpital, on avait pris, pour ceux qui connaissent, Columbia University Hospital, et qui est au nord de Manhattan, donc très bon hôpital, c'était très rassurant de voir tous les médecins, il n'y avait pas Covid-19 à cette époque-là, donc pas de problème pour moi pour venir à l'hôpital. Et puis non, il faut bien se renseigner ici aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe dans beaucoup d'autres pays, et même en France, mais bien se renseigner sur les sécurités sociales pour pas être surpris par les factures, parce que sinon on se retrouve avec des 30 000, 50 000 à devoir payer. C'est un hôpital universitaire où il y a des étudiants qui peuvent venir dans les chambres, donc il faut savoir comment on se positionne par rapport à ça aussi.
Ouais.
Et sinon, extrêmement pro.
Mais alors, j'imagine que si elle s'est fait déclencher, ça a duré pas mal de temps.
24 heures.
Ok, c'est quand même long, mais ça peut paraître efficace pour un déclenchement.
Ouais, il y a eu beaucoup de temps d'attente. C'était une super chambre, on avait vue sur Manhattan, elle n'en a pas profité du tout.
Alors, comment toi, tu peux te positionner en tant que qu'assistant chef de projet sur le déclenchement pour venir aux besoins de ta femme?
Oh bah, j'ai été principalement passif. Hein. Là, j'étais surtout en soutien moral, tenir les mains, être là à côté d'elle. J'étais pas du tout chef de projet sur le moment, moi, tu vois. Faut savoir
Est-ce que
donner la
tu lui
main, c'est
disais
tout.
pouce, pouce, pouce?
Non, je sais plus. Je t'avoue que il me semble que j'ai essayé, puis qu'elle m'a dit de me taire gentiment, et donc je me suis tué. J'étais juste là, voilà. Je pense que beaucoup de femmes ont des réactions diverses. En l'occurrence, il y avait suffisamment de monde autour d'elle. Elle était bien entourée. J'étais juste là pour montrer que j'étais là. Elle appréciait, mais j'étais au second plan. Et c'était très bien comme ça.
Et comment s'est passée alors la rencontre avec Raphaël?
Bah écoute, très très bien. La première fois que je l'ai vu, bah, c'était surtout rencontre avec lui et sa mère. Il était sur elle. Et puis bah, j'ai appris petit à petit à mieux le connaître et à découvrir son caractère.
Ouais.
Caractère ô combien actif et curieux. Tous ces moments de découverte, ouais, ça tombe bien, moi j'adore expliquer les choses quand les gens sont curieux. Alors lui, il n'arrête pas de me poser des questions, donc on s'entend très bien avec ça.
Ah oui, puis là, il doit être dans la phase du pourquoi ci et pourquoi ça, non?
Ah ouais, exactement, j'adore ça. Donc il me pose plein de questions, hein, pas mal auxquelles je peux répondre, mais il y en a aussi quelques-unes qui sont des bonnes colles, donc il faut qu'on se renseigne ensemble et du coup on apprend à rechercher les informations. Je crois qu'il aime bien pour l'instant.
Est-ce que tu avais pu prendre un congé parental?
Oui, très bonne question d'ailleurs par rapport aux US, parce que il n'y a pas, ça dépend des États et il n'y a pas spécifiquement de loi là-dessus. Donc c'est ta propre
Ouais.
boîte qui détermine combien de temps tu peux prendre. En tout cas, à mon expérience, hein, j'espère que je dis pas de
Non, t'as
bêtises.
raison.
Ce qui s'est passé, moi, j'ai une boîte de software qui essayait d'attirer des talents. À l'époque, ils avaient une politique de congé parental de 3 semaines, donc pour les pères, ce qui était pas
Ouais.
mal pour une
Ouais.
boîte américaine. Et en fait, ils sont passés à 2 mois, 2 mois et demi maintenant.
Ah.
Vraiment avant-gardiste aux États-Unis, je veux dire. Et pour les
Ouais.
pères, hein. Et pour ma femme, par contre, elle était freelance en film. Donc, pas de congé payé. C'est elle qui décidait quand elle devait arrêter de travailler. Et puis, elle a travaillé jusqu'au bout. Tout le monde, à cette époque-là, en plus, c'était pas Covid. Donc, elle allait au travail, hein, donc peut-être 5 jours avant la naissance.
Ouais.
Elle savait quand ça allait être déclenché, mais quand même, c'était pas mal de pression pour elle. Et puis, le fait de rester ensuite, elle est restée 3 mois sans travailler et elle est partie. Donc, on a dû mettre notre fils Raphaël au daycare, donc à la crèche, assez tôt, à partir de 3 mois.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a de la famille qui est venue vous voir?
Ouais, on a eu visite de un petit peu tout le monde, enfin des parents en tout cas immédiatement. Ensuite, bah on avait des grands-parents qui n'étaient pas dispo pour un voyage international, donc on est allé les voir après avec Raphaël quand il avait 2 mois. Et
Oui.
alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se passer pour d'autres, mais pour nous, ça a été assez extraordinaire. Le décalage horaire, le voyage d'avion déjà, c'est super bien passé. On a une petite frousse quand on est rentré dans l'avion parce que il y a eu une différence de sonorité, de bruit. Bref, Raphaël s'est mis à hurler dès qu'on a passé la porte de l'avion. Il regardait les lumières, je pense qu'il passait, il y a eu quelque chose. On s'est dit, oh là, on va passer un mauvais moment. Heureusement, ma femme qui prévoit tout avait prévu des petites choses à donner aux voisins en leur disant, écoutez, on est désolé, voilà des bonbons, voilà. voilà quelque chose pour vous.
Et des boules qui est.
Donc, on commence à les distribuer juste autour de nous. Ouais, des boules qui est, ouais, il y en avait. Et il se trouve qu'il s'est arrêté de pleurer au bout de 2 minutes et qu'il a dormi le reste du temps. Et une fois arrivé en France, donc gros décalage horaire, nous, ça allait pas. Lui, ça allait comme un charme. Il s'est mis à faire ses nuits à partir de la première nuit en France. Donc,
la chance. Donc peut-être, trop bien.
Voilà, je sais pas du tout si médicalement c'est conseillé de faire un voyage à 2 mois, mais en tout cas, ça peut bien se passer.
Bon, je crois que tu peux. Il a ses vaccins en plus, je crois, à 2 mois, si je m'en rappelle.
Pour nous, ça l'était. Le médecin nous a dit aucun souci, mais de manière générale, je sais pas. Ouais.
Bah c'est cool, du coup, il a voyagé déjà à peine 2 mois de vie.
Et ouais.
J'aimerais bien qu'on parle un peu de estime.
Ouais, volontiers.
Parce qu'il me semble que quand moi je t'avais rencontré et la façon dont tu avais présenté ce projet, et tu nous en diras bien plus à la suite de ça, mais tu nous disais que c'était par fascination pour ta femme que tu étais venu ce projet.
Oui, complètement. Alors, peut-être que je peux te dire juste un petit mot avant sur ce que c'est pour le contexte. Estime est une marketplace de diversité et d'inclusion qui permet de placer des femmes en tech et des hommes qui sont leurs alliés, comme on dit en américain, puis qui aussi peut placer d'autres types de diversité dans des entreprises qui les soutiennent et qui font quelque chose pour elles. Qui ont une réputation, de les soutenir, etc. Donc on a cette activité de placement, une sorte d'agence, c'est un service, mais on crée aussi ce qu'on appelle des équalitons, qui sont des hackathons pour l'égalité, hack for equality, et au travers desquels on peut promouvoir une marque qui cherche à employer des personnes qui viennent de la diversité, et au travers desquels, en fait, les employés de ces différentes marques-là vont pouvoir travailler avec des personnes de divers backgrounds pour créer des applications super sympas. Alors, juste pour te donner un petit exemple, on a fait un COVID-19 Equaliton qui a permis de travailler avec Première Urgence Internationale, une grande ONG française, qui d'habitude soigne des gens contre Ebola en Afrique et qui, là, voulait faire une action pour COVID-19. Et on a fait une fake news application, COVID-19 fake news, qui permet de trier les informations que tu trouves sur social media, et l'application te répond à partir des mots-clés de la news, avec de l'intelligence artificielle, sur les informations les plus à jour et vérifiées de sources authentiques. On a un impact avec ce genre d'application, 4000 volontaires en Afrique avec Première Urgence Internationale qui parle à 200 000 personnes au moins, donc ils ont trouvé même des financements pour accompagner cette application. Donc, dans ce cadre, en fait, l'idée m'est venue avec des discussions avec ma femme, effectivement. C'était en 2017, donc il y avait tout un contexte MeToo, il y avait tout un contexte politique, des séries de cas de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral sur les femmes qui éclataient au grand jour avec le MeToo. J'avais été invité pour une raison que j'ignore, mais qui était fort sympathique par le consulat de France à New York à venir à leur événement sur la journée des droits de la femme. Et donc j'y suis allé, ça a été super influençant aussi. Et en même temps, grâce à MeToo et à ce qui se passait sur Internet, j'avais des conversations avec ma femme où je disais, mais je pensais pas qu'on avait besoin encore de... Déjà qu'il y avait tant de harcèlement sexuel et qu'il y avait tant d'inégalités, et puis je me suis fait rentrer dans l'art, elle m'a fait un petit peu éclater ma bulle d'homme blanc dans le software, pas très divers, et donc ça m'a vraiment effectivement incité à aller me renseigner beaucoup plus. Et il se trouve qu'à cette période-là, je voulais créer une autre société, parce que j'avais déjà essayé de lancer des startups avant qui n'avaient pas marché, et je voulais, dans le milieu du recrutement, lancer une société avec un but... General purpose, et je me suis dit que soutenir les femmes dans le monde du travail, c'était vraiment quelque chose qui faisait sens, puisque les stats montraient qu'effectivement, il y avait tout un tas d'inégalités en termes de salary gap, de glass ceiling, alors j'utilise des termes franglais, je suis désolé, et puis que c'était très transversal et probablement apolitique, et c'est avéré qu'ici aux États-Unis, ce n'est pas si apolitique que ça malheureusement, mais on a continué... Et je suis devenu un vrai male ally, comme ils disent ici, quelqu'un qui soutient l'égalité pour les femmes et pour tout type de diversité. Moi, je pense que beaucoup d'hommes, que ce soit de mon âge ou n'importe quel âge, soutiennent l'égalité, évidemment, et soutiennent l'idée de mérite, d'égalité, sont très surpris d'entendre que c'est pas le cas, et ne font rien pour autant, parce qu'ils n'ont pas le temps, et parce qu'ils sont pas eux-mêmes touchés par ça, donc il n'y a pas d'incentive immédiat. Et j'aimerais bien faire bouger les lignes à ce niveau-là, Mais c'est très très compliqué.
Oui, et puis je me rappelle aussi pendant la table ronde que justement vous aviez organisée, une femme justement expliquait que pour faire changer les choses, il faut réinciter les hommes à les mettre autour de la table et à leur dire voilà la situation telle quelle et voilà la façon dont vous pouvez faire changer les choses. Parce que si tu exclus forcément les hommes au bout d'une conversation avec que des nanas, ça ne va pas faire changer les choses, quoi.
Ouais, et il y a beaucoup de débats là-dessus, je pense, hein, parmi des groupes féministes. Et moi, je respecte les deux opinions. Il y a les Wolfpack, les femmes qui s'organisent entre elles pour se soutenir, et je pense que ça peut être très utile. Ça peut aussi créer peut-être des effets pervers avec des hommes qui se sentiraient exclus ou qui se diraient bon, on veut nous dominer, nous mettre au pas ou ce genre de choses-là, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et juste, faut se renseigner aussi, hein, avant d'avoir des idées préconçues sur les intérêts des uns et des autres. Être féministe, c'est pas bien méchant, c'est juste vouloir l'égalité des femmes par rapport aux hommes, vouloir arrêter ces différences de salaire qui sont inexplicables quand on compare les choses. Ça peut être 20% d'inégalité salariale dans la population, et ça peut être 10-15% à background équivalent. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. Je pense que moi, effectivement, une discussion, tu parlais des discussions avec ma femme, ce qui m'a vraiment choqué, c'était une discussion donc avec ma femme, où elle me disait un jour, elle revenait de son prise, donc une boîte de production encore de films documentaires ici à New York, et c'était une boîte qu'elle aimait beaucoup, avec des managers qu'elle aimait beaucoup, et notamment un avec qui elle a toujours contact et qui est super sympa, et qui est venu un jour dans l'open space en disant « Ah, j'ai promu un tel, un homme qui était moins expérimenté que les autres femmes productrices. » Parce qu'il m'a rappelé moi-même, ouais, on a eu une discussion, on a pris une bière, il m'a fait rire, il m'a rappelé moi-même quand j'étais plus jeune, et il se trouve qu'il l'a promu, parce qu'il avait cette connexion avec lui. Et les autres femmes qui ont entendu ça dans l'open space ont été choquées, parce qu'évidemment ça voulait dire que pour elles, il n'y avait pas de progression possible, donc il y avait un biais complètement inconscient chez cette personne-là, qui ensuite l'a reconnu et qui a dit « Ah ouais, effectivement, je comprends bien, je suis désolé. » Et au moins, elles en ont parlé, et ensuite moi, elle m'en a parlé, ça m'a influencé, je me suis dit « Mais... » Comment être motivé dans ce cadre-là quand il y a une femme au travail?
Ouais, c'est clair. Mais ça me fait penser que quand je t'avais rencontré, je travaillais dans cette boîte et je me rappelle le dernier jour, je parlais avec les juniors, je discutais avec ces mecs, donc du coup parce que c'était des mecs, et je me suis rendu compte qu'ils gagnaient au moins 10 à 15 000 de plus que moi en fait quand j'étais arrivée en junior, quoi.
Il y a une différence aussi dans la manière dont moi j'ai appris à négocier avec... J'ai perdu mon père très tôt, mais j'avais un beau-père super sympa avec qui je parlais pas mal, et lui, il m'a donné des conseils pour apprendre à négocier mon salaire au début et pas lâcher le morceau si on me disait non. Donc je sais pas si une belle-mère aurait fait ça avec moi. En tout cas, c'est assez important de parler négociation à la sortie des études, puisque c'est le premier salaire qui va déterminer ensuite une bonne partie de la progression, et les changements sont des multiples du premier salaire. Donc très important de bien se renseigner à ce moment-là, et s'il y a quelque chose à faire au niveau mentoring et explication avec des jeunes femmes qui commencent leur activité professionnelle à la sortie des études, c'est de bien apprendre à se positionner pour négocier. Ouais.
Alors attends, mais ça me fait penser, parce que tu as commencé ton projet en 2017, mais maintenant avec le Trump, comment tu te sens? Oui, avec le Trump, parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est comme le Covid.
Ouais, c'est ça.
Il faut le placer comme une maladie et quelque chose quand même qui influence de manière très négative, je trouve, la population américaine. Et le monde, hein, je pense que d'ailleurs on peut l'internationaliser. Est-ce que ça te démotive? Est-ce que ça te motive encore plus?
Je pense que c'était relativement décorrélé, hein, d'un aspect politique, encore une fois. C'est vraiment, quand tu regardes les choses de manière statistique, aux États-Unis et dans le monde, il y a quand même pas mal de statistiques correctes, nombreuses, qui ont montré une inégalité entre les femmes et les différentes minorités dans le monde du travail, et la majorité des hommes blancs. Donc c'est pas là-dessus que je me fonde principalement. Après, quelle que soit ton affiliation politique, tu le vois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est partagé, hein, entre les différents, ce constat-là est partagé entre les différents milieux politiques ici. Le fait que Trump soit élu a été une prise de conscience pour pas mal de monde dans les grandes villes, on va dire. Je pense que ce genre de débat n'était pas clos et que les choses pouvaient facilement évoluer dans un sens qui n'était pas envisagé par le passé. Donc, ça nous a peut-être servi, je sais pas. Je pense pas énormément. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, mais de manière générale, les personnes avec qui nous faisons des écolithons sont des personnes qui ont vraiment, un, l'égalité des uns des autres à cœur, deux, qui la vivent elles-mêmes. Souvent, il y a quand même 80% de femmes ou plus. Et donc, les inégalités sont vécues depuis un certain temps et elles ont envie d'agir. Pour leur propre communauté. Il faut savoir qu'on redonne d'ailleurs une partie des revenus qu'on commence à faire avec Estime à des non-profit partners. Donc on donne entre 5 et 25% des revenus qu'on fait à Women Who Code ou Girl Develop It ou d'autres.
C'est génial. Est-ce que maintenant tu peux en vivre de Estime ou pas encore?
Pas encore suffisamment. Bah, tout éventuel, je
Oui.
peux en vivre, mais ça va pas être extraordinaire.
Oui.
Par contre, on
Non,
a
mais
quand
c'est
même de plus en
génial.
plus de. On a
Oui.
eu beaucoup de procès. En fait, cette question de l'égalité intéresse beaucoup de monde de manière personnelle et les organisations de manière professionnelle parce qu'il est prouvé qu'il y a un avantage à l'égalité en termes de sentiment d'inclusion, de créativité dans les équipes qui doivent être créatives, dont les développeurs et les équipes en tech, et puis toutes celles qui sont autour, évidemment. Un avantage en termes de productivité qui découle de l'inclusion et de la diversité. Qui sont pas la même chose. Et puis ensuite, il y a un avantage en termes de retour financier sur un placement dans une entreprise qui va être plus diverse ou plus inclusive qu'une autre. Et donc, il y a une convergence des intérêts des personnes qui se renseignent là-dessus et des personnes qui le vivent pour dire qu'il faut faire quelque chose. Mais il y a aussi toute une partie de la population d'une entreprise qui n'y fait pas spécialement attention. Il y a certains hommes dans les entreprises qui vont penser que ces questions de diversité, c'est des questions de quotas, et alors que c'est vraiment pas le cas, on s'en distancie de ça. On est là pour faire passer des CV de personnes qui sont talentueuses, mais qui passeront pas nécessairement les mailles du filet à l'origine,
Représentative pour
ouais,
ton
ou alors qui
quota, ouais.
vont juste pas se postuler elles-mêmes à des entreprises parce qu'elles cherchent des entreprises qui montrent qu'elles font attention à elles, et les entreprises n'ont pas forcément les moyens de brander ça, de marketer ça auprès de leur groupe. Donc, elles postulent pas et ces entreprises reçoivent pas de CV. Donc déjà, il y a ce problème tout bête à l'origine que nous pouvons adresser.
Et est-ce que tu penses aussi que c'est une formation des recruteurs? Parce que beaucoup d'entreprises passent par des recruteurs. Est-ce que tu penses que déjà, eux, sont biaisés par le fait de se dire, bon, bah, ils cherchent un programmeur, donc forcément, je vais essayer d'aller me positionner plus vers ce type de profil?
Il y a un certain biais de la part de recruteurs. J'avais discuté. Alors, ça dépend des recruteurs internes ou externes. Parce que, de manière générale, les grandes entreprises qui font attention à la diversité et l'inclusion, parce qu'elles ont des stats pour y faire attention, parce qu'elles ont moins la tête dans le guidon que les autres aussi, font de plus en plus attention à ça. Les recruteurs sont bien. Aware de tout ça, et malgré tout, tu trouves des biais. Donc, j'avais discuté une fois avec une DRH qui me disait que les personnes qui se présentaient, qui postulaient à sa société n'étaient que des femmes entre 0 et 1 an d'expérience et que du coup elles ne pouvaient pas les recruter, que les équipes les acceptaient pas, etc. Donc, bah, pour moi, c'était clairement un problème de positionnement ou de réputation de sa société, parce qu'il y a quand même pas mal de femmes en tech. En termes de recrutement spécifiquement, est-ce qu'il y a des biais? Oui, il y en a plein. On a tous un biais, voilà, qu'il se soit implicite ou pas. Donc ça ressort évidemment dans les recrutements. Utiliser des techs qui permettent d'anonymiser ou de simplifier ou de changer la manière dont les résumés, pardon, les CV sont écrits, ça peut aider. Mais je pense qu'on peut aussi faire plus que ça, et notamment à l'onboarding, c'est très important de faire en sorte de présenter une personne, une femme en tech qu'on va recruter à des personnes qui peuvent être des mentors, faire en sorte qu'elles se sentent bien. Pourquoi spécifiquement une femme et pas un homme? Parce que souvent elles vont être seules ou quasi seules dans des équipes et ça joue énormément sur le moral. Donc si on parie sur la diversité pour faire un peu plus apporter de la créativité ou même avoir un output comme augmenter le product lifecycle d'un nouveau produit qu'on va créer, parce qu'on aura pensé à des choses grâce à une femme dans l'équipe auxquelles on n'aurait pas pensé en étant homme, parce que le feeling utilisateur va être différent, et ben on veut que cette personne qu'on recrute reste dans l'équipe. Et il y a beaucoup de turnover chez les femmes en tech parce qu'elles ne se sentent pas bien acceptées dans une équipe. Non pas parce que les gens sont négatif envers elle, mais relativement passif. Et c'est dur hein, de changer pour une personne, mais en tant qu'homme qui sort d'une école d'ingénieur et puis qui a resté après dans une équipe où il y a principalement des hommes, ben, on a acquis des types de comportements qui vont être catégorisés de manière générale comme très masculins. Soit on va aller boire une bière, soit on va parler de sport, soit refaire des blagues qui ne sont pas nécessairement acceptées facilement par les personnes de notre sexe. Donc, essayer de faire attention à ça n'est pas si facile, je pense.
Est-ce que tu trouves que c'est réel le fait qu'une femme va moins postuler à un travail si elle ne remplit pas 80% des types tirés,
oui,
contrairement à un homme qui se dira « bon bah go, je remplis deux des tirés, pourquoi pas quoi ?»
Alors j'ai vu ce genre de statistiques, je ne sais pas à quel point les études qu'ils font sont viables ou pas, en tout cas j'ai eu ce sentiment-là au travers des différentes interviews que je peux faire avec des femmes qui peuvent être très expérimentées. Rencontre beaucoup d'imposter syndrome. Moi, c'est quelque chose que je connaissais absolument pas. Je n'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à m'intéresser à la diversité. Donc, il y a quelque chose dans nos éducations qui change à ce niveau-là, je pense vraiment. C'est une opinion éclairée par des recherches dont je n'ai pas exploré toute la véracité, la solidité, mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et je pense que c'est très, très présent. Ouais.
C'est marrant parce que je me dis, en vue de ton parcours, que tu l'aurais eu, ce syndrome de l'imposteur, étant donné que postuler pour un travail en France, pour une boîte américaine, ensuite venir ici, ensuite essayer de monter sa boîte, monter une autre boîte, c'est quand même dingue.
Mais est-ce que ça... Non, je n'ai pas eu... Alors... Tout au début, en arrivant aux États-Unis, postuler pour une boîte américaine en étant en France, moi j'ai utilisé le réseau parce que sinon il fallait que je sois ingénieur. Je ne suis pas ingénieur, j'étais sorti de Sciences Po et c'est là que j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Du coup, personne ne m'attendait aux États-Unis, hein, ça ne se différencie pas énormément si tu veux. Et quoique, après expérience peut-être. Mais. J'ai pas eu d'imposter syndrome parce que j'étais suffisamment sûr de ce que j'allais apporter. C'était un petit peu dur à l'origine de travailler à distance avec les équipes américaines en stratégie de m'imposer dans une discussion. Alors, je m'imposais pas. Et puis, petit à petit, j'ai été reconnu en tant qu'expert et c'est venu comme ça. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait moyen de créer son expertise au fur et à mesure, tu vois. Donc là aussi, un peu d'imposter syndrome. Alors, est-ce que c'est ma personnalité ou est-ce que c'est représentatif? Je sais pas. A priori, c'est un petit peu représentatif de pas mal d'hommes.
C'est super intéressant. J'y avais jamais pensé, tu vois. Super intéressant.
L'imposter syndrome doit sans doute impacter la création d'entreprises pour les femmes. Et d'après des discussions que j'ai eues avec des VC femmes qui travaillent beaucoup avec des femmes créateurs d'entreprises ici, elles disent que, donc c'est pas moi qui le dis, hein, je tiens à préciser, que des femmes créateurs d'entreprises ont tendance à avoir plus besoin de mentoring et de soutien que des hommes, parce qu'elles sont très peu en relation dans leur carrière en tant que chef d'entreprise avec des femmes. Et du coup, il y a des questions de positionnement à ce moment-là. Et pour aller chercher des financements, quand on est une femme face à que des hommes, ça peut être aussi assez déstabilisant. Et puis les investisseurs, alors notamment aux États-Unis, je commence à en côtoyer un petit peu, ont souvent des approches très très directes, des questions très abruptes. Ils cherchent à mieux nous connaître. Parfois, j'entends des histoires d'investisseurs qui invitent les uns les autres dans les jacuzzi, à boire des bières, là aussi. Donc, c'est toujours la même histoire.
Hein. Ouais. Bah, écoute, non, on va peut-être faire une recherche là-dessus, ça peut être intéressant. Alors, comment tu arrives à gérer ton travail, plus Estime, plus Raphaël, plus Julie, plus maintenant une nouvelle petite tête à ajouter à la famille?
Alors, est-ce que je gère véritablement plus COVID-19? C'est...
Quelle est ta charge mentale?
Ouais, j'essaie de partager la charge mentale avec Julie. Elle m'a beaucoup appris à ce niveau-là aussi. Et on partage de plus en plus. Il y a eu un grand changement avec l'apprentissage que j'ai fait de la parentalité avec Raphaël. Pour moi, à l'origine, le travail était quand même... j'avais de l'ambition, je voulais créer une société, j'étais aux États-Unis, je n'allais pas laisser passer ma chance de créer une boîte ici. Et il fallait tester ça. En plus, dans un univers où je travaillais avec des collègues qui investissaient dans des boîtes via la société dans laquelle je travaillais. Donc, pour moi, c'était une chance dans ma vie de faire ça. Et c'était très important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui voient le travail de manière très trop sérieuse, presque, comme ça, qui vont avoir tendance à placer leur travail vraiment avant tout, au bout d'un moment, et qui vont peut-être perdre pas mal de chances d'interagir de manière simple avec leur famille. Et j'ai eu la chance d'avoir une femme qui se laisse vraiment pas faire et qui, qui m'a ramené au droit chemin en juste me disant que je pouvais faire un peu plus attention à elle, à montrer que, par exemple, les week-ends, hein, j'étais obligé de travailler puisque j'avais un travail de plein temps et la création de la société en même temps. Donc j'arrivais à m'occuper de Raphaël parce que je travaillais depuis chez moi à la maison. Mais les week-ends, je continuais à travailler et quand on me posait une question, j'étais souvent pas dispo et ça a créé vraiment des soucis dans notre couple et je me suis dit vraiment que c'était pas possible de continuer comme ça, ça allait faire craquer des choses. Donc juste, je pense, de montrer qu'on fait attention, de lâcher le travail quand il y a un moment où on se dit par exemple le week-end je peux pas continuer à prioriser le travail sur le reste, donc si je dois lâcher, ben je lâche, advienne que pourra. Et en fait, l'attention à donner, un, n'est pas si longue que ça, et deux, fait énormément de bien, donc on revient au travail avec beaucoup plus de force, de motivation, on fait les choses plus vite. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, donc j'ai été gagnant sur tous les plans. Je pense un soutien moral à donner, c'est aussi un soutien moral qu'on reçoit.
Oui, tu penses qu'elle partage ton avis et tu penses qu'elle sent que tu l'aides beaucoup?
Ouais, elle partage mon avis et elle m'a dit qu'il y avait pas mal de changements sur les dernières années. Donc j'espère que ce sera le cas aussi maintenant, alors qu'elle estime commence à se développer et qu'on attend un deuxième enfant. L'histoire se répète toujours. Ouais.
Alors comment tu te sens à l'idée d'avoir un deuxième enfant ?
Ouais, super excited, comme on dit ici. Ah, vraiment, ça me fait... là, je me projette tellement plus que la première fois. Tu vois, j'arrive à beaucoup plus en parler, je sais à quoi m'attendre, et je pense que je vais être surpris, donc si on fait un follow-up, je pourrais te dire comment ça s'est passé en réalité, mais je pense que ça va très très bien se passer. J'ai prévenu tous les collègues à Estim qu'il va falloir que j'arrête de travailler, je serai dispo pour eux un petit peu ici et là, mais certainement pas en priorité. Il se trouve que j'ai des collègues qui sont eux aussi parents, qui comprennent très bien, des collègues femmes qui me disent mais bien sûr, puis ce sera une super manière pour eux de faire les choses sans moi et d'avoir enfin la paix, je pense.
Et Raphaël, comment il le sent alors à l'idée d'avoir un... Vous savez d'ailleurs le sexe si c'est un garçon ou une fille?
Oui, c'est un garçon, un deuxième garçon. Ah, donc on va avoir une petite tribu, on va aller faire du basket dans les environs.
Oui, voilà, t'es en train de préparer ta petite équipe de basket.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est eux qui vont me préparer, je pense, parce que j'ai pas fait de basket depuis un certain temps. Puis s'il est comme Raphaël, le petit deuxième va être un grand dadais aussi. Raphaël l'a relativement bien pris. On avait pris le temps de se renseigner sur la question. Étant enfants uniques tous les deux, on était un petit peu inquiets à ce sujet-là. On a donc parlé autour de nous, lu, et puis on lui a lu pas mal d'histoires de qu'est-ce que c'est être un grand frère, qu'est-ce que c'est
Choupi d'avoir... Choupi attend sa petite sœur.
Mais voilà, tout ça. Alors, il était super heureux d'avoir un petit frère ou une petite sœur. À l'origine, il ne savait pas. Et puis surtout, on l'a inclus dans la manière dont on l'a dit à notre famille. Donc, ça a été un moment où on a attendu le dernier moment avant de le dire à nos familles, pour le dire à Raphaël. Et lui l'a annoncé à tout le monde de manière à ce que ce soit une surprise. Et il a tenu sa langue.
Trop bien.
C'était super chaud.
Qui c'est qui va garder Raphaël du coup pendant que vous serez à l'hôpital?
On a des amis français, américains dans le coin. Et...
Parfait.
Très bonne suggestion d'ailleurs, je pense, aux Français qui viennent s'installer ici à New York, ou d'ailleurs aux États-Unis de manière générale. C'est une société qui marche pas mal par la communauté. Les gens s'entraident assez facilement. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solidarité ici, comparé à ce que j'ai pu vivre en France. Qui n'est pas que factice, comme les gens croient beaucoup que les Américains sourient et qu'il n'y a que ça, mais en fait non. Et j'ai été vraiment, vraiment très agréablement surpris par notamment les parents d'élèves qui se reçoivent les uns les autres et qui agissent sans être trop intrusifs auprès des professeurs et même des daycare. Et on a créé des supers amitiés. Quand il y a un enfant qui est malade ou qu'il y a un parent qui est malade, on se soutient énormément. Donc c'est aussi ce qui se passe là pour nous maintenant.
Tu veux dire la communauté française comme américaine ?
Comme américaine, ouais. Les Américains sont très soudés les uns avec les autres.
Oui.
Et la communauté française ici aussi, je suis on est vraiment partagé entre la communauté française et la communauté américaine. On connaît beaucoup d'Américains grâce aux études de ma femme ici, moi-même dans le cadre de mon boulot, et puis l'école de Raphaël.
Oui, non, je pense que c'est un bon message à faire passer, c'est que oui, ils peuvent paraître très superficiels par leur chit-chat très rapidement, mais il faut creuser, il faut gratter. Je pense que c'est comme tout le monde, puis on rencontre des gens fabuleux.
Ouais, et puis là où j'habite à Brooklyn, vraiment énormément de gens sont très très ouverts, ils adorent parler de France ou d'autres choses. Donc ouais, très très sympa.
Tu viens de Paris.
Ouais.
Parce qu'ils ne connaissent que ça. Tu leur parles Marseille. Moi j'ai appris Marseille à Mac, donc maintenant il arrive à nous faire Paris, Marseille et Nantes.
Oh, Nantes.
On est pas mal. Hein.
Ouais, ouais. Oh,
ouais. Je sais. Parce que...
Ah, moi, c'est surtout Bordeaux qu'ils aiment bien.
Ah, ouais. Bah, tu vois, moi, il n'est pas sur le vin. Il n'est pas à fond sur le vin. Mais je pense qu'ils ne sont pas capables de le placer sur une carte.
Bon, non, mais ça, même Paris, hein, c'est difficile. Quand tu vois les cartes de Fox News, tu rigoles.
Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Enfin, non, mais je pense qu'ils ont un sacré effort à faire en termes de géographie, ça c'est pour sûr.
Géographie et langues étrangères, c'est pas le top, mais il y a beaucoup de bons côtés quand même, je trouve.
Oui, non, c'est sûr. Généralement, est-ce que tu aurais des conseils à offrir, notamment à des papas qui peuvent être dans ton cas, qui essayent de gérer leurs enfants, leur famille et leur carrière? Qu'est-ce que tu aurais à leur proposer ou à leur dire?
On est loin de nos familles, donc c'est important pour nous de bien partager la charge mentale, comme on dit, et la charge de l'éducation, de manière générale, à des enfants, autant que les femmes, je pense. J'accepterais pas, moi, perso, que ma femme perde des chances de promotion pour moi ou à cause de moi, et donc bien faire sortir ça et être là quand il faut. Ça a nécessité un ajustement pour moi, et maintenant, je pense que j'y suis quand même beaucoup mieux. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est pas évident et que beaucoup de femmes portent sans doute font beaucoup d'heures en plus qu'on ne fait pas nécessairement. Alors j'espère que tu es pas en train de dépeindre un tableau trop noir des hommes. Tout est varié bien sûr, mais quand même quelque chose qu'en tout cas moi j'ai vécu et j'ai pu voir autour de moi. Voilà, je pense que de manière générale, dans la société, c'est déjà elles qui font un gros effort pour mettre les enfants au monde. Ce serait vraiment injuste qu'un moment aussi magnifique que ça soit synonyme de perte de vitesse dans la carrière pour elles. Donc, essayons de faire un petit quelque chose pour ça. Et puis, pour gérer un enfant et une carrière pour les deux parents aux États-Unis, là, il faut vraiment soutenir l'un l'autre, trouver les flexibilités des uns et des autres. Avoir les moyens de mettre son enfant au daycare. Je pense qu'il y a une certaine injustice aux États-Unis par rapport à ça, quand même. Donc, il ne faut pas accepter un emploi aux États-Unis sans bien se poser les questions du coût de l'éducation, du coût du healthcare et potentiellement les autres types de filets sociaux. Mais voilà, c'est principalement ça, je pense, que je dirais.
Ouais. Est-ce que tu as des exemples précis de la vie quotidienne pour diviser la charge mentale entre les hommes et les femmes?
Ouais.
Est-ce que tu crois que tu as des trucs que tu as mis en place, par exemple, avec ta femme, qui peut être intéressant à partager?
Ouais. Bah écoute, moi, j'ai mis en place que c'était moi qui m'occupais de Raphaël le soir. Donc, c'était plus facile pour moi d'aller le chercher au daycare. Donc, c'était entre 5h30 et 6h. Il y avait quand même une grande plage horaire de daycare pour lui. Une bonne coupure de ses parents. Mais pendant 2 heures, c'était moi qui m'en occupais vraiment jusqu'au coucher le soir. Et ça m'a permis de connecter énormément avec lui. Et je pense que ça m'a aidé aussi à par rapport aux petits soucis d'alignement paternel que j'avais au début, de me rapprocher énormément en lui lisant des histoires, en faisant attention. Bon, on a pris le parti de pas trop lui montrer la télé. Mais donc, passer beaucoup de temps soit à jouer, soit à lire au début. Et ça nous a énormément connectés. Et ça... C'est moi qui m'occupais de faire la cuisine, de nettoyer pendant ce temps-là aussi quand il jouait tout seul. Donc ça aidait un peu.
Ouais.
Évidemment, bon, se lever la nuit. Je sais pas, c'est deux exemples-là que j'ai en tête maintenant, mais je pense que je pourrais t'en...
Non, mais t'as raison. Mais ça me fait penser aussi à moi, en tant que femme, je dirais aux autres femmes de laisser ce temps au papa. Toi, de ne pas se dire « il n'est pas capable, donc je ne vais pas le laisser ». Parce que ça arrive souvent, mine de rien, où une nana va se dire « bah non, il va pas savoir ce qu'il va faire ». Et non, je ne vais pas le laisser 2 heures tout seul avec son fils. Alors que je pense que ces moments-là sont extrêmement précieux. Déjà pour la nana, parce qu'elle peut avoir un peu de temps libre. Et puis, ça a permis au papa de se dire, bon, bah oui, je peux le faire.
Ouais, et puis, je pense aussi que c'est important pour l'enfant de voir que le père est là et passe du temps avec lui.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ?
Ouais, bah, plein de choses déjà d'avoir un petit enfant bientôt, je pense, sans trop de problèmes.
Celui-là, déjà, ça va être pas mal.
Ouais, voilà, un deuxième petit ricain dans la famille. Chose qui est complètement inattendue. Mais voilà, bah, puis après que tout se passe bien pour ma femme quand elle va retourner au boulot, moi-même pour ma société, que les choses se passent bien, un, en mon absence et de manière générale. Bah, merci pour la petite pensée, c'est sympa.
Non, bah, écoute, vraiment, merci Hugues. Merci pour ton témoignage. Merci de vouloir changer les choses et d'aider les femmes ou tout du moins les minorités à se faire accepter dans le monde du travail. Je pense que c'est une cause qui est extrêmement importante. Donc,
merci à toi pour l'opportunité d'en parler aussi un petit peu. Et puis j'espère qu'on verra de plus en plus d'hommes qui se revendiquent publiquement comme des soutiens de l'égalité pour faire en sorte que le message soit amplifié et que les autres se sentent moins seuls.
Merci beaucoup Hugues, très gentil. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao !